C'est absolument de la danse. Un pas de côté, c'est de la danse. S'échapper de la gravité, c'est de la danse. Et essayer de voir comment est-ce qu'on arrive à composer avec un monde qui est en difficulté, c'est aussi de la danse.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leur projet de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh !
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens ?
Qui suis-je ?
Il est complètement fou, ce mec !
À demain !
Aujourd'hui, je reçois Adrien de Blanzy. Depuis 14 ans, il dirige l'ADN. C'est un média en ligne et trimestriel papier qui explore le monde d'aujourd'hui, les évolutions et innovations de notre société. Avec un axe non négligeable, que l'innovation reste conviviale, c'est-à-dire plus libératrice qu'aliénante. Petit projet. Ils aspirent à révéler le meilleur de notre époque. On y trouve des sujets pointus sur notre génération désorientée, des articles parlant de robots thérapeutiques qui nous aident à traverser cette période difficile, décryptent avec humour et dérision les applis du moment qui émergent, comme OnlyFans, ou les nouveaux métiers qui émergent, comme le Sensitivity Reader, traduisez liseur de sensibilité, qui permet d'éviter les propos sexistes, racistes ou homophobes qui ont échappé à son auteur, souvent mâle, hétéro et blanc. L'ADN Group est plus qu'un média. Il crée un carnet de tendances, dont celui de 2021 qui vient d'être publié. Ils ont aussi fondé Le Shift, un collectif de nouveaux mutants regroupant scientifiques, entrepreneurs, artistes, ONG, investisseurs, artisans et directeurs en tout genre. L'objectif, avoir 42 personnalités par univers. Pourquoi 42? C'est un entier naturel qui suit 41 et précède 43, nous dit Wikipédia. Mais c'est aussi et surtout un chiffre mythique, fameuse réponse du sens de la vie issue du guide du voyageur galactique de Douglas Adams. Au total, 420 personnes, soit une incroyable richesse de connaissances. Je parle bien évidemment du collectif de Nouveaux Mutants. Incroyable richesse de connaissances et d'intuitions, ayant un appétit immodéré et jubilatoire pour les grandes questions. L'ADN a aussi lancé le Dance Living Lab pendant ce deuxième confinement qui regroupe danseurs et penseurs pour porter un autre regard sur les enjeux de notre époque. Bref, les projets et les champs d'action d'Adrien sont très larges. Maintenant, découvrons l'homme derrière tout ça. Avec lui, j'aimerais parler de l'ADN, du groupe qu'il dirige, du rôle des médias en période de crise, de comment continuer à évoluer soi-même et faire évoluer son entreprise, son métier, quand on y est depuis 20 ans, et de l'impact de cette période si particulière, et enfin, de danse, pour échapper à la gravité du monde. Vous allez voir. Bonne écoute. Adrien, bienvenue sur le podcast Insensé. Je suis ravie de te recevoir, et donc pour la petite histoire, je t'ai rencontré pour la première fois à une époque où je démarrais à peine ma vie professionnelle et j'avais fait une candidature assez drôle et très spontanée. C'était il y a un peu moins de 10 ans, donc je suis hyper ravie de te recevoir sur le podcast aujourd'hui. Et j'aimerais parler, donc à cette époque, tu dirigeais les éditions d'après. On est, je crois, maintenant dans le monde d'après, enfin j'espère, on le démarre. Et j'ai une question pour toi qui est aujourd'hui à la tête d'un groupe avec des valeurs fortes, notamment autour de l'intuition. Et j'ai pu lire sur votre site que vous décrivez cette intuition comme un moment magique où l'innovation et le sens se connectent enfin. Ça a éveillé ma curiosité, est-ce que tu peux nous en parler ?
D'abord bonjour Kelly, merci à toi de m'accueillir. L'intuition c'est très important, ça fait partie des trois valeurs de l'ADN qui sont l'intuition, la confiance et puis le bien commun. Et effectivement le métier de journaliste on le conçoit véritablement comme un travail autour de l'intuition. Moi, je dis toujours, il faut vraiment qu'on soit des sortes de chiens truffiers de l'époque et que on est exactement... nous, ce qui nous intéresse, c'est les signaux faibles et c'est comment ces signaux faibles deviennent grands. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de demander aux équipes de s'imprégner de l'époque, de se nourrir ailleurs, dans les arts, dans les médias, dans la vie de tous les jours, au contact des gens. Et donc ce travail autour de l'intuition, il est absolument indispensable pour des gens qui revendiquent le fait de comprendre l'époque, et d'essayer de la comprendre en tout cas, et donc de la ressentir. Donc ouais, il y a une histoire de ressenti qui est très importante.
D'accord. Et pour continuer sur l'autre aspect, vous parlez aussi de confiance, qui est pas un petit sujet pour un média, et de bien commun avec une quête, faire grandir la responsabilité sociale des entreprises. Vous parlez d'agir pour un monde marchand, ok, mais plus écologique, et de militer en faveur des innovations qui, plutôt que de nous affaiblir, nous vivifient. Et ma question est la suivante, comment est-ce que vous dressez cette ligne, cette frontière qui paraît quand même bien fine, entre des innovations qui vont nous nourrir, nous vivifier, et d'autres qui vont nous pomper un peu notre énergie?
En fait, on a décidé de ne pas opposer entreprise et bien commun. On pense que les entreprises ont véritablement un rôle plus que jamais important à jouer dans la société, et qu'elles ont une capacité de changement, elles ont une capacité d'impact qui est très importante. Donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises, d'essayer de travailler avec elles, et comme on sait qu'elles ont un impact très important, de travailler avec elles. Nous, on est vraiment... cette ligne de crête, effectivement, elle est fragile, mais il y a quelque chose qui est assez enthousiasmant, c'est que depuis, je dirais, 2-3 ans, il y a derrière des comportements vertueux des modèles économiques. Les consommateurs ont absolument besoin d'être en confiance par rapport aux marques qu'elles consomment. Ça devient véritablement important pour les marques en termes de durabilité de s'intéresser au sujet de responsabilité sociale des entreprises, de transparence, d'écologie, parce que sinon elles vont tout simplement plus exister. Donc on est assez confiant, et puis je pense que dès lors, le rôle qu'on a en conseil des entreprises, notamment des conseils éditoriaux, on travaille beaucoup sur le récit, nous. Sur comment est-ce qu'on accompagne les entreprises pour prendre de la hauteur par rapport à leur raison d'être et pour raconter au grand public pourquoi est-ce qu'elles existent. Et en fait, quand on le fait vis-à-vis de leur public, on le fait également vis-à-vis en interne, vis-à-vis de leurs équipes et vis-à-vis d'elles-mêmes. Et sincèrement, on voit que ça les change.
Et deux questions un peu en une. C'est quoi ces comportements vertueux? Et comment est-ce que cet alignement entre la raison d'être et les comportements en interne jusqu'au staff, jusqu'aux salariés, comment elle se traduit par exemple?
Alors la raison d'être, c'est absolument fondamental, déjà de savoir pourquoi est-ce qu'on existe, quelle est la mission que l'entreprise a et qu'est-ce qu'elle apporte à la société. Ensuite, comment est-ce qu'elle travaille autour de ces modèles économiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on crée une nouvelle valeur, comment est-ce qu'on fait pour que la valeur que l'on va créer soit aligné avec l'époque, aligné avec les besoins de la planète, d'égalité homme-femme, etc. Et voilà, et en fait, à partir du moment où on parle de la raison d'être, moi j'ai un sentiment qu'il faut faire les choses un petit peu dans l'ordre, c'est-à-dire on part de quasiment une idée philosophique de la raison d'être de l'entreprise, on va à la valeur, à la création de valeur et à la création de nouvelles valeurs. Et ensuite, on diffuse ça en interne auprès des équipes. On transforme les chaînes de production de l'entreprise. Et surtout, ensuite, on le fait savoir. On fait savoir à nos publics qu'on a fait tout ce travail d'alignement. On est transparent, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on est parfait. On n'est pas dans un discours super positif. On est dans un discours sincère. Et cette sincérité-là, franchement, je trouve et je vérifie qu'elle devient payante aujourd'hui.
Je travaille aussi à cette même quête avec un workshop sur justement la mission, la raison d'être, les valeurs que portent les employés dans une entreprise, souvent sur des plus petites structures, j'imagine. Comment est-ce que vous opérez? Est-ce que vous opérez plutôt c'est-à-dire la raison d'être va être définie par toutes les personnes qui composent l'entreprise pour trouver une voie unique, ou au contraire, plutôt la dessiner et ensuite voir où est-ce qu'il y a l'adhésion pour s'assurer que l'entreprise est viable sur le long terme? Je ne sais pas si ma question était assez claire.
Si, elle est claire. La question, c'est de savoir si est-ce que la raison d'être se définit par l'ensemble de l'entreprise ou est-ce qu'elle est définie par une direction. Moi, je pense que la raison d'être, elle se définit par une direction, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voter pour savoir quelle est la raison d'être de son entreprise. La raison d'être, c'est en amont. C'est qu'est-ce qu'on fait autour des gens qui ont fondé l'entreprise. Et ensuite, en revanche, il faut qu'il y ait un alignement avec les salariés. Et cette raison d'être, il faut qu'ils sachent pourquoi ils sont là. Mmh. Mais nous, aujourd'hui, à l'ADN, le principal de notre activité, c'est de travailler sur cette raison d'être, mais aussi en aval sur le récit, plus que sur les créations de nouvelles valeurs.
D'accord. Pour rester un petit peu sur l'ADN, en cette période assez particulière, j'aimerais avoir ton avis sur quel est le rôle des médias dans cette période, justement.
Alors, les médias, ils ont un rôle très important dans une époque où la confiance en l'information est assez abîmée. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde est média. On voit bien qu'il y a une véritable époque de conspiration, de fake news, une période très agressive. Et donc, les médias ont un rôle de boussole. Ils doivent véritablement essayer d'être des tiers de confiance qui permettent de mieux comprendre l'époque, certes, mais en plus de se sentir en confiance par rapport à l'époque. C'est vrai que aujourd'hui, il est quand même assez attristant de se rendre compte qu'énormément de gens s'informent exclusivement sur leur fil de réseau. Et c'est vraiment très flippant. Donc, dans une époque comme celle-ci où on manque énormément de sens et de repères, les médias sont super importants et je ne comprends pas pourquoi ils sont pas. Pourquoi il y a une augmentation de la fragilité des médias aujourd'hui. Et Dieu sait si l'époque qu'on vient de vivre et l'année Covid, avec des implications très, très fortes sur les pertes de recettes publicitaires, ont été difficiles pour les médias. Il se trouve que nous, on n'est pas du tout dépendant de la publicité dans notre modèle économique, donc on n'a pas subi ça, mais je suis inquiet sur le modèle économique des médias qui a beaucoup souffert de ces baisses de recettes publicitaires.
J'ai deux questions qui me viennent. La première est sur ce modèle économique. Comment vous fonctionnez, vous, de votre côté?
Nous, on a fait le choix de sanctuariser la rédaction et le média qui finalement vit beaucoup via les abonnements. Et puis, on a une activité qui est l'ADN Studio, qui est donc tout le travail qu'on fait au service des entreprises via la création de contenu autour des tendances pour les marques, de conférences, de médias de marques. Et donc tout ce travail dont on parlait tout à l'heure sur la raison d'être et sur la façon dont on accompagne les entreprises par le récit, qui nous permet finalement de véhiculer au service des entreprises les valeurs qu'on défend dans l'ADN. Donc on est très, quand les gens viennent nous voir, ils savent pourquoi ils viennent nous voir, ils viennent nous voir pour ce qu'on est, nous. Et donc on a une ligne éditoriale qui est totalement protégée, qui est vraiment ce qu'on est, elle est très sincère, on est vraiment des artisans au sens noble dans la création de contenu pour le média, et on fait en sorte que les entreprises pour lesquelles on travaille viennent nous voir pour ce qu'on est.
Et pour rebondir sur un autre aspect qui m'intéressait, cette notion de confiance dont tu parlais tout à l'heure, comment la recréer ?
En fait, j'ai l'impression que les grands médias gardent la confiance quand même des audiences. Tu vois, des médias comme Le Monde, Le Figaro, Libé, etc., ils gardent cette confiance. Mais ce qui est regrettable, c'est la baisse de fréquentation, c'est-à-dire que le fait qu'on ne voit plus la nécessité de s'informer via les médias, qu'on considère que que nos fils de réseaux sociaux suffisent à comprendre le monde, et que les petites bulles dans lesquelles on est enfermé suffisent à nous conforter dans nos idées. Donc la plus belle preuve de confiance, ce serait qu'un média nous permette de changer de point de vue, en fait.
Et pas nous conforter forcément.
Donc ça suppose quelque chose qui est difficile, qui s'appelle faire un effort. Il faut espérer qu'on va y arriver. Et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites par les médias quand même, qui sont très malignes, qui sont celles d'aller là où ça se passe. C'est-à-dire quand les médias sont sur Snapchat, quand les médias sont sur Insta, quand les médias sont sur les réseaux, quand ils occupent cette place-là, c'est important qu'ils le fassent parce qu'ils vont là où les gens sont, plutôt que d'être en attente que les gens viennent chez eux. Et ça se fait de plus en plus et c'est bien.
Et tu penses que ça crée un autre dialogue ?
Alors, il y a aussi cette idée du dialogue. C'est vrai qu'il faut aussi, et ça c'est aussi une question de moyens, que les médias et les grands médias peuvent le faire, mais aillent vraiment sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup, beaucoup de créations de médias digitaux qui, pour des questions de moyens, devenaient exclusivement réanalyser de l'information déjà existante. Donc c'est vrai que c'est bien de le faire, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment, et d'ailleurs nous on commence à le faire, parce qu'on commence vraiment à le faire, de faire des vraies enquêtes de terrain, d'aller au contact des gens et ça nous rend plus intelligents d'ailleurs, parce qu'on est au contact, donc on perçoit beaucoup mieux la réalité du terrain. Et ça participe aussi du retour de la confiance.
Moi, j'ai pas une totale confiance, tu vois. J'ai une grande distance. J'arrive pas forcément à me retrouver. J'ai l'impression que l'information est modifiée. Après, c'est peut-être très personnel, mais en tout cas, j'aimerais recréer cette confiance et m'enfermer plus proprement. Et j'ai tendance à, je suis pas un exemple, hein, mais à rester sur des informations très positives, celles qui vont m'inspirer, celles qui vont m'élever. Et rester très très loin des informations au quotidien, quoi.
Moi, je suis hyper sensible au rapport affectif qu'on entretient avec des médias. J'ai toujours eu un rapport hyper affectif avec Le Monde ou avec Libé. Sur les unes de Libé qui sont emblématiques. Je trouve que le rapport affectif qu'on a avec des médias est important. Mais c'est en tout état de cause, ce qui est important, c'est en tout cas d'en lire plusieurs et d'en lire avec des opinions différentes.
Ouais, c'est ça. Ma conclusion, c'était ça. C'est si je ne lis pas tous les bords chaque matin, je n'arriverai pas à forger mon propre avis. Parce que cette information neutre est très, très difficile à obtenir. Je sais que vous explorez aussi beaucoup les tendances. À l'ADN, vous venez de publier donc ce nouveau carnet de tendances 2021. Après l'année qu'on vient de passer, je t'avoue que je suis très curieuse de savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que tu peux nous partager, sans trop nous spoiler, des grandes lignes?
Alors, on analyse les tendances de 22 secteurs clés, donc les lignes sont très diverses, mais il y a un truc qui est assez intéressant et marquant, c'est le retour de l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, on était dans une époque, on était depuis un certain nombre d'années sur le fait de vraiment s'auto-flageller, puisqu'on était quand même à l'origine du désastre, du réchauffement climatique, des désastres écologiques, de l'anthropocène. On était concurrencé par le numérique, qui était plus intelligent que nous, plus rapide que nous, qui ne se trompait jamais. Et puis le Covid est arrivé et on s'est rendu compte qu'il y avait des élans de solidarité absolument remarquables entre humains, de soutien, des initiatives au niveau local, au niveau national, au niveau international. Et ce retour quelque part, il y a ce retour de la confiance en l'humain que je trouve, dans une époque et dans une année aussi épouvantable que celle qu'on vient de vivre, un des rares éléments qu'on peut tirer comme étant positif, sur lequel on peut s'appuyer pour construire l'année qui vient. Il y a ensuite, très clairement, le rôle de l'entreprise, c'est-à-dire que l'implication de l'entreprise dans la société qui s'est révélée. Alors, on peut prendre, pour exemple, des entreprises concurrentes qui sont mises à travailler ensemble pour créer des respirateurs, Decathlon avec son masque de plongée, de snorkeling qui a participé à l'effort de guerre. Et donc, l'entreprise devenant marque soignante, c'est-à-dire qui véritablement prend son rôle, quelque chose qui va perdurer parce que de toute façon ce sera une nécessité pour les entreprises. Je peux si tu vois, c'est les deux lignes qui me viennent là.
Et en étudiant ce monde de demain et toutes ces innovations, j'ai une curiosité de savoir si toi t'es un grand adepte des innovations, des nouveaux outils, des nouvelles choses, ou au contraire est-ce que t'es plutôt pantouflard? Oui, mais... tout à fait. Je prenais les deux extrêmes.
La notion d'innovation, elle a une connotation court-termiste qui ne me convient pas. Moi, j'aime bien parler de, pour reprendre Étienne Klein, de progrès, c'est-à-dire d'avoir une vision, non plus de l'innovation, mais véritablement de en quoi ces choses-là apportent un véritable progrès au monde dans lequel on souhaite vivre. Donc, pour répondre à ta question, je ne suis pas du tout un consommateur technologique, loin de là. Et ce qui nous intéresse à l'ADN, c'est le progrès. Et puis, on est très sur des tendances sociétales. Donc, c'est comment est-ce que l'époque se comprend et se vit. Et évidemment, la technologie, le digital, l'intelligence artificielle, les nanotechnologies, les évolutions de la santé sont partie prenante de ça et sont très importantes. Mais ça ne fait pas de nous, et en tout cas pas de moi, mais c'est certainement dû aussi à mon grand âge, puisque j'ai 46 ans, donc je ne suis pas un gamer, etc. Donc voilà, je ne suis pas du tout sensible aux nouveaux outils numériques, mais je suis sensible à la compréhension de l'époque au sens large.
Et au progrès justement qui est associé. Et tu dirais que c'est la même chose dans ta vie privée et ta vie pro?
Ah oui, moi je fais peu de séparation. Enfin, il y a une séparation entre la vie pro et la vie privée, mais en tout cas, ce média et cette vie et ce que j'ai choisi de construire avec cette boîte, c'est véritablement ce que je suis complètement et émotionnellement. Donc il n'y a pas de... véritablement, ce qu'on a construit avec la DEN est sincère. C'est-à-dire que moi, je dis toujours qu'on est des artisans, mais surtout, on est d'une sincérité totale quand on travaille pour nous, quand on travaille pour nos clients. Je dis souvent, on est premier degré. C'est pas pour ça qu'on est, on est bête, mais on est très sincère.
Mmh. On va parler de toi. Habituellement, je pose cette question en tout début d'interview, et c'est la question de ton parcours. On va s'éloigner du CV traditionnel, mais plutôt essayer de regarder tes chemins de traverse, qui soient liés à une expérience professionnelle, dans le sens un projet qui a été porté dans cette entreprise, ou des déclics qui peuvent être liés à des choses plus personnelles. Ce que j'aimerais découvrir, c'est ton parcours à travers ces chemins de traverse.
Alors moi, j'ai un parcours assez particulier, puisque effectivement, je n'ai pas du tout fait d'école de commerce. Moi, j'ai commencé par faire du théâtre. J'ai ensuite fait de la production de films, et assez vite, j'ai fait de la danse. Et j'ai créé ma compagnie de danse contemporaine, et j'avais envie de mettre en scène des spectacles, découvrir l'univers de la danse, et j'ai commencé par le faire, en fait, ce qui est assez particulier. Alors au début, je me suis fait aider, après je me suis mis à moi-même faire les chorégraphies. Et la particularité, c'est que les spectacles que je faisais étaient toujours en lien avec l'époque. C'est-à-dire, je m'intéressais à l'époque à l'univers des blogs, à l'univers de la guerre des Balkans. Donc il y avait déjà cette envie de s'intéresser au sujet de société, et de trouver des formes de narration, parce que c'est vraiment ce que j'aime beaucoup avec la danse, c'est qu'on peut complètement inventer des formes de narration comme on le souhaite. C'est-à-dire que la dramaturgie est relativement libre. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup influencé ensuite ce que j'ai voulu faire en créant ce média.
D'accord. Justement, j'aimerais creuser un petit peu ce point-là de la danse. En quoi est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré? On va parler du projet peut-être tout à l'heure... du Dance Living Lab, mais en quoi est-ce que la danse, enfin, quelle place est-ce qu'elle a pris dans ton quotidien?
Ben, la danse, elle est magique parce que c'est évidemment extrêmement. C'est la réunion entre cerveau droit et cerveau gauche. Quoi. On est sur du sensible, on est sur de l'émotionnel, on est sur une intuition de l'époque, véritablement, qui est physique. C'est-à-dire que c'est un. C'est un rapport corporel au présent que je trouve d'une poésie folle. Enfin, moi, j'ai découvert la danse dans un. Je me souviens très bien. J'avais 17 ans. Pour la première fois, j'allais à l'opéra. Je voyais un spectacle de Caroline Carlson et d'Olivier Debré qui s'appelait Signe. Et je suis sorti de là, mais transformé. Ça m'a aimé d'en parler.
Et ouais, je vois ça. C'est génial.
Mais c'était top.
Donc là, tu pratiquais déjà? Enfin, tu dansais déjà?
Non, je dansais pas, je faisais du théâtre. Et à partir de là, j'ai fait de la danse, pas mal. Mais c'est vrai que c'est un souvenir qui m'a changé, parce que je me suis rendu compte de la poésie folle de la danse. Et ça m'accompagne au quotidien. Et quand on fait ce qu'on fait, c'est à travers le média, la revue, on est toujours très sensible à la forme, à faire de beaux objets. Qui accompagne la compréhension des sujets qu'on traite.
D'accord. Je vois un petit peu cette source d'inspiration justement dans la forme pour l'ADN. Est-ce qu'il y a d'autres parallèles dans ta vie? Est-ce que tu as trouvé à travers la danse des choses qui ont pu t'éveiller?
Je trouve que c'est un rapport au présent, à l'époque et au sensible qui est hyper intéressant. Donc, ça nourrit énormément ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que dans la façon dont on conçoit le traitement de l'époque, pendant longtemps, et on vient de le changer, mais on travaillait sur 5 aspects qui étaient les nouveaux usages, les signaux faibles, les technologies à suivre, la façon dont les entreprises fonctionnaient et dont elles étaient innovantes dans leur mode de fonctionnement interne, d'organisation, de rapport aux salariés, etc. Dans la mutation des médias, qui est un sujet majeur, et puis dans les nouveaux mondes créatifs. Et en fait, on concevait la compréhension de l'époque, on ne pouvait pas se concevoir sans le regard sur les nouveaux mondes créatifs qui, bien souvent, encore une fois, sont aux avant-postes et sont très, très inspirants. S'intéresser au spectacle de danse contemporaine ou au théâtre contemporain, et franchement, c'est hyper éclairant. D'ailleurs, c'est bien souvent, c'est pas toujours conscient de la part des créateurs, mais c'est très, très éclairant sur ce que ça raconte de l'époque.
C'est d'ailleurs ce que vous avez essayé de faire à travers le Dance Living Lab, de croiser penseurs et chorégraphes et danseurs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, qu'est-ce que ça vous a permis de faire ?
C'était un énorme bonheur pour moi, parce que je renouais donc avec l'univers de la danse, et l'idée, c'était de raconter autrement l'époque, en initiant des rencontres entre des chorégraphes et des chercheurs. Donc on a identifié 4 chercheurs qui avaient envie de se prêter à l'aventure avec nous, 4 chorégraphes. Donc un chorégraphe et un chercheur se rencontraient de façon assez brève. Et ensuite, l'idée, c'était que le danseur, pendant 3 jours, le chorégraphe, allait créer une courte forme artistique autour de ce que lui inspirait la rencontre avec le penseur. Donc on l'a fait, ça devait se faire au 104 sur scène en novembre, mais avec le confinement, on n'a pas pu le faire. Donc on en a fait des films. On a très très vite repensé le projet. Et on a diffusé ça 4 jeudis de suite là. Ça s'est terminé la semaine dernière. Ça m'a beaucoup intéressé aussi parce qu'on avait à la fois 4 chorégraphes très différents, mais aussi 4 personnes. On avait un philosophe avec Laurent de Supter. On avait une chamane avec Céline D'Artagnan. On avait une neuroscientifique avec Mélanie Marcel, et puis un explorateur avec Christian Clos. Donc 4 univers de recherche différents, et puis des chorégraphes de danse contemporaine, de hip-hop, donc Rachid Ouramdam, Anne Nguyen, Rocio Béranguet, et puis un conteur, David Val. Mmh. J'ai fait une très très jolie déambulation dans la campagne du sud de la France, très très poétique.
Très poétique, c'est ce que j'allais dire, ouais. J'ai particulièrement aimé la rencontre entre Céline D'Artagnan et Rachid Ouramdam, et cette danseuse toupie infinie qui juste rentre dans cette espèce de transe. Enfin, le mouvement est assez incroyable, je partagerai bien évidemment la vidéo en lien de l'épisode. C'est un projet que tu as initié ?
C'est un projet que j'ai initié. J'ai rencontré Maxime Fleuriot, qui travaillait à la Biennale de la Danse avant, à la programmation, et qui a une très très grande connaissance du monde de la danse contemporaine et du théâtre. Et donc on a travaillé ensemble là-dessus pour essayer de mettre en relation donc, des chercheurs qu'on avait interviewés dans la revue et des chorégraphes. Et moi je suis très, très heureux de ça, parce que je trouve que c'est, encore une fois, c'est vraiment une autre façon de raconter de grands sujets qu'on a traités dans l'ADN. Ça fonctionne. Mmh. Donc c'est chouette.
Bravo. Je suis un petit peu rentrée au début de cette interview par l'ADN, vos valeurs, ce que vous portez au sein du groupe. J'essaye de t'amener à toi, ou en tout cas apprendre à mieux te connaître toi, et de savoir dans quelle mesure, même si ce projet, je pense, en est une très bonne illustration, comment est-ce que ce groupe et l'évolution de ce groupe nourrit ton évolution et vice-versa ? Et comment est-ce que toi, tu te retrouves aligné, ou en tout cas tes valeurs s'y retrouvent dans tout ça ?
Alors en fait, ce qui est très très marrant dans la façon dont moi je perçois l'entreprise, c'est que c'est vraiment une personne morale, et qu'en fait, au sens noble du terme, c'est pour moi, je considère que l'ADN, c'est une personne, et qu'on est tous la composante de cette personne. Et les gens, enfin les journalistes de l'entreprise, l'ensemble de l'équipe me nourrit personnellement de façon incroyable. C'est-à-dire que moi, j'ai changé au contact des gens qui font cette boîte, et j'espère avoir contribué à également les changer. Et c'est extrêmement inspirant au quotidien. Alors, d'autant plus quand on est au contact de journalistes et qu'on travaille pour un média. Mais véritablement, moi, cette équipe m'a changé. Et donc, elle me nourrit. Et c'est hyper agréable d'arriver au bureau chaque matin et d'être inspiré. Moi, je suis inspiré au quotidien par... j'ai vraiment... Je dois avoir le nez pour recruter des gens géniaux, mais j'ai une équipe démente.
Génial. Et est-ce que tu peux nous partager un changement que tu n'aurais jamais pensé avoir ?
C'est-à-dire ?
Au sein de toi, donc cette équipe t'a beaucoup inspiré à changer. Et quelque chose qui a été un shift un peu de pensée qui t'a changé, qui t'a fait changer de prisme. peut-être.
Sur les sujets de relations au travail, sur les sujets d'écologie, sur les sujets de relations hommes-femmes, sur tous les grands sujets qui sont traités par l'ADN, j'ai énormément évolué. Mm. Vraiment. Il y a plein de sujets qui sur le véganisme, c'est sur le rapport à la consommation, sur le rapport aux autres, sur la relation, sur la relation à l'autre. Franchement, c'est marrant parce que l'image qui me vient, c'est, je trouve que c'est très apaisant. En fait. Au-delà d'être inspirant et au-delà de me changer, le contact avec l'équipe, parce qu'on sent qu'il y a un alignement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un alignement et on n'a pas du tout tous les mêmes points de vue sur le monde. C'est-à-dire que c'est très divers, en fait. Et c'est ça qui est riche. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils. Et paradoxalement, cette diversité est apaisante.
Mmh. Ouais, c'est un alignement individuel, mais qui permet un genre d'ancrage un peu collectif, quoi.
Absolument.
Mmh. Y a-t-il une habitude dans ton quotidien qui a changé pour toi à travers... Il y a des tonnes de sujets que vous couvrez, donc ça peut prendre la forme de ce qui se passe au quotidien chez toi, comme au bureau, comme tu parlais notamment de ta relation aux autres, ou peut-être des nouveaux modes de gouvernance. Qu'est-ce qui... J'essaye d'obtenir des exemples concrets ici. Tourne autour du pot.
Notamment dans les modes de gouvernance, le fait de diriger une boîte, c'est quand même avoir un certain pouvoir. Mmh. Et apprendre à réaliser ça et dans le rapport à l'autre est quelque chose qui est vachement important, en fait. Il faut jamais oublier ça, en fait. Jamais oublier ce qu'on présente et comment est-ce qu'on peut au mieux créer un dialogue qui soit le plus équilibré possible. Dans le rapport aux autres en général, et particulièrement dans une entreprise où il y a, quoi qu'on en dise, évidemment, des boss, des salariés, etc. L'entreprise en tant que est un lieu qui change beaucoup. Les générations Z ont un rapport à l'entreprise aussi qui est très différent de celui que moi j'avais en tant que génération X. Et ça me change au quotidien, effectivement, dans le rapport que j'ai aux équipes. Et puis, moi qui dirige quand même des boîtes depuis 20 ans, je trouve vraiment que, en tout cas, ça a opéré chez moi un changement qui pas très ancien, qui a 4-5 ans, sur mon rapport aux salariés, à l'entreprise, la façon dont je me perçois moi en tant que manager et dont je me remets en question. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est compliqué de mener un bateau, parce que pour mener un bateau, il faut avoir des convictions. Et en même temps, d'être vraiment ouvert à changer la direction. Mmh. C'est marrant parce que c'est un rapport de confiance et en même temps de fragilité permanente. Parce que sans fragilité, on n'est pas ouvert à la brise qu'on sent traverser.
Mmh. Je rebondis sur ces 20 ans de gestion de boîte. Plus largement, donc seulement 14 ans de l'ADN.
6 ans, 2014.
Pardon, 2014, 6 ans, j'y arriverai toujours pas. J'ai une forme d'admiration et d'intérêt pour ça, parce que j'ai beaucoup changé de métier, d'industrie, de casquette au fil de l'eau. Ma curiosité m'a emporté un peu aux quatre coins de tout ça. Et ça, de mon jeune parcours. Et du coup, je me demande, et je pense que je ne suis pas la seule à me demander ça, comment tu arrives à te renouveler tant autour des projets que toi-même à travers le temps, à travers l'espace. Et comment est-ce que tu restes en accord avec tes valeurs dans cette évolution?
Alors, en fait, il y a un enthousiasme très sincère de... Moi, je suis enthousiaste. C'est-à-dire qu'il y a un désir, une envie. Et en même temps, il n'y a pas une frénésie. C'est-à-dire que j'essaie d'être... de pas être... Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui a sans arrêt des nouveaux projets, etc. Dans cette frénésie-là, ce n'est pas un truc du tout qui m'intéresse. je suis quelqu'un d'assez à la fois enthousiaste et lent dans la maturation des projets que j'ai envie de mettre en place. Mais en fait, en étant à l'écoute de cette époque qui est quand même extrêmement passionnante, naissent naturellement des projets. On a, pendant le confinement, créé un nouveau média qui s'appelle Et demain notre ADN, dans lequel on analysait les conséquences du Covid pour chacun des secteurs. Ça a été non seulement un succès, mais extrêmement passionnant. On a lancé l'ADN Danse, mais c'est devenu naturellement, parce que naturellement, le média arrive à une maturité qui faisait qu'on sentait qu'il fallait qu'on raconte autrement les sujets qu'on traitait. En fait, c'est comme si le renouvellement venait de lui-même. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de chercher le renouvellement pour le chercher. J'ai l'impression que c'est comme si on était dans un courant, qu'on nageait dans un courant, et que naturellement, ça nous emmenait d'île en île, et donc de projet en projet.
Il y a cette notion de regard et d'écoute qui est importante dans ce...
Oui, c'est en fait d'accompagner le flux, et naturellement, c'est quand même pas... En étant à l'écoute de ce qui se passe, on naisse des choses. Quoi.
Mmh.
On a fait le shift aussi, le collectif... des nouveaux mutants.
Ouais.
C'est vrai qu'avec du recul, quand je regarde l'année 2020, on a fait des tonnes de trucs, mais j'ai pas du tout le sentiment de frénésie. Tout ça s'est fait de façon naturelle. Et puis surtout, il y a un autre truc.
Très organique.
Très organique et puis très complémentaire. C'est-à-dire que, en fait, quand les projets se succèdent et qu'ils viennent nourrir, quand ils se nourrissent les uns les autres, eh ben, ça, c'est beaucoup plus facile et agréable.
Pour rebondir justement sur ce collectif, dans le précédent épisode avec un homme qui s'appelle Pedro Correa, on parle d'un groupe de réflexion qui l'a beaucoup aidé sur sa transition. Il était avant ingénieur et il est maintenant photographe avec tout ce que ça comporte comme doute et remise en question. Et pour trouver son ancrage dans son époque, il a mis en place ce groupe de réflexion et j'ai l'impression que à une autre échelle, c'est ce que vous avez fait avec... le Shift, donc le collectif des nouveaux mutants. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce que vous faites ensemble? Qu'est-ce qui ressort de ces échanges?
En fait, on s'est rendu compte en tant que média qu'on rencontrait des gens géniaux tout le temps, de plein d'univers différents. On avait des chercheurs, des gens d'entreprise, des artistes, des gens de la finance. Et on s'est dit, mais c'est trop con de les rencontrer juste pour une interview et de plus les voir après. Donc on a eu envie, non seulement de revoir ces gens géniaux qu'on avait rencontrés, et en plus de les mettre en relation, parce qu'on s'est rendu compte que bien souvent, et c'est tarte à la crème de le dire, mais c'est tellement vrai, les univers sont assez clos. Et que imaginer réunir des gens d'univers différents pour les faire réfléchir ensemble au sujet auquel on réfléchit dans l'ADN nous semblait être une initiative assez passionnante pour nous, possiblement pour les autres. Et donc on a invité, avec un postulat, parce que ça nous amusait, de dire on va réunir des gens de 10 univers différents, donc des gens du corporate, des artistes, des chercheurs, des gens des médias, des gens de la finance, etc., des gens du conseil. Donc on a identifié comme ça 10 catégories, de façon arbitraire, mais on considère que ça représente quand même assez bien la diversité des profils. Et de se dire, on va réunir 42 personnalités de chacun de ces univers à terme. Donc en année 1, ils seront 10 de chaque univers, donc 100 personnes. En année 2, 200 et ainsi de suite, pour arriver jusqu'à 420 personnes. Et on se réunit de façon régulière autour des thématiques traitées par la revue pour échanger ensemble autour des sujets qu'on traite. Et bien souvent, ça donne lieu à des étincelles. Enfin, c'est hyper intéressant de voir un cadre d'un grand opérateur de téléphonie mobile qui discute avec une chorégraphe et la chorégraphe qui lui parle de la perception qu'elle a aujourd'hui des gens qui se perçoivent en 2D. Elle a le sentiment que les gens ne se perçoivent pas en 360 et donc ne voient pas ce qui se passe derrière eux. Certainement grâce ou à cause de leur rapport à leur téléphone. Donc, c'est des conversations sont surréalistes.
Qui n'arrivent que dans ce croisement-là.
Bah, c'est hyper marrant, franchement. Ouais. Et c'est très éclairant. Donc, cette diversité des profils qui réfléchissent ensemble à des sujets, sincèrement, ce sont des moments de bonheur. Et donc, au-delà de rencontres à travers des dîners, il y a des moments d'inspiration à travers des petits déjeuners. Ils écrivent tous ensemble un numéro spécial de la revue. Donc ça va être très très marrant parce que l'idée c'est d'écrire à plusieurs mains des gens d'univers différents, des mêmes articles sur des sujets.
Sacré prod.
Et voilà, et puis surtout ils se rencontrent. C'est aussi l'idée de rencontrer des gens d'univers différents et de voir comment est-ce que chacun apporte à l'autre une pierre qui va lui permettre d'avancer dans son parcours.
Génial. Adrien, à présent, j'aimerais t'amener à la question insensée qui précède des questions peut-être plus intimes, plus profondes. La question insensée que j'ai choisie aujourd'hui, dis-moi à quel point tu es fêlé.
Je ne pense pas que je sois fêlé. Par contre, je suis... En fait, je n'ai absolument pas peur de faire des choses. C'est-à-dire que j'ai un rapport à l'initiative et au réel qui fait que je fais des choses. Peut-être que c'est un peu fêlé de procéder comme ça, mais quand j'initie des choses, je me fous absolument complètement de ce que les gens peuvent en penser. J'ai envie de le faire, donc on y va, on le fait. Et donc on a une c'est vrai que dans la boîte, on a une capacité à faire les choses rapides et parce que je les initie ça. Donc, je ne sais pas. Effectivement, c'est fêlé parce qu'il n'y a pas véritablement d'études ou de réflexion préalable. Je sens un truc et je le fais. Je suis peut-être aussi un peu fêlé parce que je suis extrêmement sur l'émotion. Donc, j'ai un rapport au réel et à mes clients et aux gens avec lesquels je travaille qui est très autour de, enfin, qui est très émotionnel et donc très sincère.
Il y a beaucoup d'intuition. Enfin, je lis beaucoup d'intuition entre tes mots. J'aimerais te présenter Ashanti, mon fameux totem, qui te regarde depuis le début de l'interview. Elle m'accompagne sur toutes les interviews et elle est là un peu comme une baguette magique pour que le monde fasse plus de sens. Je vais te la prêter et je vais t'inviter à nous partager un vœu pour que ce monde fasse un peu plus de sens. Quel vœu choisirais-tu ?
J'aimerais que les gens croient, écoutent leurs intuitions. Si les gens écoutaient véritablement leurs intuitions, sincèrement, ce serait heureux. Et j'ai vraiment... Enfin, je dis ça parce que à chaque fois que moi, j'écoute les miennes, ça me réussit. Voilà.
Merci. Je te la reprends. Ça m'amène à une question qui était clairement ma prochaine, mais qui est tout à fait en lien avec ce que tu viens de dire. On n'a pas appris à l'école à travailler notre intuition, à la lire. À part, du coup, peut-être travailler son intuition, qui est quelque chose qu'on trouve peut-être dans les écoles Montessori. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école ?
J'aurais adoré qu'on me dise « Écoutez cette petite musique qui est au fond de vous et qui vous dit quelque chose. Écoutez-la et écrivez ce qu'elle vous raconte sur cette feuille. Et le fait de l'avoir écrit sur cette feuille va peut-être la rendre un peu plus réelle. Et une fois que vous l'avez écrite sur une feuille, ben, peut-être construisez-la en objet pour la rendre encore plus réelle. Ce que j'aurais voulu qu'on m'apprenne, c'est comment transformer en monde réel une toute petite musique très lointaine qui est au fond du cerveau et qui vous dit quelque chose et que vous n'écoutez pas forcément. Comment la faire éclore, finalement. Si l'école pouvait apprendre ça, ce serait magique.
J'y travaille. Adrien, pourquoi tu fais ce que tu fais ?
Je fais ce que je fais parce que ça donne du sens à la façon dont je me réveille le matin. C'est-à-dire vraiment, j'ai envie de faire des choses utiles et j'ai vraiment l'impression que ce qu'on fait est utile. Je suis à la fois heureux de le faire parce que ça me plaît, mais si j'étais heureux de le faire parce que ça me plaît et que c'était... Si je sentais qu'il n'y avait pas en plus une utilité sociale, sociétale à ce qu'on fait, ça m'amuserait beaucoup moins. Donc là, je trouve que je suis heureux parce que je trouve que c'est complet.
Quelle est ta plus grande peur ?
Ma plus grande peur, c'est la mort, évidemment. La mort en général, c'est-à-dire que la mort des gens, mais la mort des choses aussi. Et d'ailleurs, c'est une peur qu'il faut que j'apprenne à combattre, parce que j'ai parfois du mal à me séparer de projets, de choses qui fonctionnaient pas forcément bien, qu'il fallait apprendre à faire le deuil. C'est très libérateur d'accepter ça. Donc, voilà.
Merci. Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
La confiance.
C'est quoi écouter son âme ?
Écouter son âme, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur écouter la petite musique. C'est ça, c'est vraiment... c'est être attentif à soi... dans le bon sens du thème, hein, sans être nombriliste, quoi. Je crois beaucoup à ça.
Et comment as-tu appris à te connecter à toi ? Ou y a-t-il
quelque chose qui te permet de te reconnecter à toi dans les moments où ça dérape un peu?
Bah, je me connecte... Enfin, je ne suis pas certain d'avoir appris à me connecter à moi. Je ne suis pas du tout pratiquant de ni méditation, ni yoga, ni rien du tout. C'est marrant parce que j'étais en train de me dire que ce moment qu'on est en train de vivre ensemble aujourd'hui et tout de suite est vraiment me connecte à moi. Donc, tu vois, ça me fait du bien. Donc, merci à toi.
Génial. Merci. Je trouve ça génial. Très beau. C'est un très beau compliment que tu me fais là. As-tu un conseil à donner à Adrien qui avait 20 ans?
Ouais, et confiance plus en toi et puis crois en fait que tu puisses j'allais dire être épanoui, heureux, t'amuser et en même temps faire des choses bien. Et j'ai commencé véritablement à réaliser tout ça assez tard, hein, parce que quand tu parles de 20 ans, je l'ai commencé à 40 ans. En étant père d'ailleurs, peut-être que le fait d'être père a certainement d'ailleurs à participer à ça.
Oui, c'est sûr, c'est sûr. Y a-t-il une phrase qui t'aide à te lever le matin, qui est un peu ta phrase totem ou ton mantra?
Non, je suis désolé, mais je n'ai pas de phrase du tout, totem ou mantra. Je suis très...
Elle peut être du moment, elle n'a pas besoin d'exister...
Non, mais en tout cas, ce qui me caractérise mes matins, c'est moi, j'adore. C'est marrant d'ailleurs, parce que je suis vraiment quelqu'un justement du matin. J'adore le lever du soleil, la promesse d'une journée. Alors que je suis pas quelqu'un du tout de la nuit, du tout. J'ai jamais été quelqu'un de la nuit. Je suis très admiratif des gens qui écrivent jusqu'à 5h du mat la nuit. Ça me fait rêver. J'adorais être cet être poétique mais moi je dors, je me couche tôt et j'aimerais beaucoup être différent de ça, mais voilà, en revanche effectivement ça me permet d'être enthousiaste le matin.
Génial. Est-ce que tu peux nous partager à présent deux vérités et un mensonge te concernant? Tu ne diras pas lequel est lequel.
J'ai été réalisateur de films. J'ai été comédien et j'ai écrit un livre.
Y a-t-il une personne inspirante ou un mentor qui t'a débloqué des choses dans ton parcours?
Non. Alors, mais pas du tout. Et je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais non, moi je...
Ouais, c'est drôle, c'est ce que je vois. Il y a vraiment deux typologies de personnes. Certains qui se nourrissent vraiment de parcours d'autres et vont s'approprier des bouts de choses.
Moi, c'est des bouts de choses. C'est vraiment ce que je te racontais avec beaucoup de d'émotion, du souvenir, ce moment vraiment clé de ma vie qui est ce spectacle de danse. Mais au même titre qu'il y a eu d'autres moments. Mais je n'ai pas du tout un mentor qui a transformé ma vie. Moi, j'ai l'impression d'être quand même vachement... un mec du terrain, quoi. Enfin, j'expérimente un peu tout seul les trucs, je me prends des claques, puis j'y retourne, ou alors je change de chemin, mais j'ai pas ça.
D'accord. C'est l'avant-dernière question, elle est assez simple. Y a-t-il quelqu'un qui mériterait de passer sur le podcast Insensé, que tu me recommanderais, qui aurait aligné ce qu'il est et ce qu'il fait au quotidien?
Ah bah, je t'invite à inviter Céline D'Artagnan, qui est la fameuse chamane du film de l'ADN Danse que tu as beaucoup aimé.
Avec grand plaisir.
Parce que c'est quelqu'un de très intéressant qui a changé complètement de parcours, qui était cadre supérieur chez TF1 et qui justement a écouté cette musique et qui est devenu, après un certain nombre de voyages au Tibet, chamane. Donc c'est quelqu'un de formidable.
Eh bien écoute, ce sera avec grand plaisir, avec grand, grand plaisir. La question de la fin, pour clôturer notre interview, est-ce que tu dirais plutôt danser sa vie ou vivre sa danse?
Ah, c'est super joli comme question. Vivre sa danse. Vivre sa danse, ouais.
Tu veux nous commenter?
Ben, je trouve que danser sa vie, il y a quelque chose d'un petit peu léger, de très gai. J'aime beaucoup danser sa vie. Mais vivre sa danse, c'est véritablement écouter s'écouter soi et essayer de le prolonger dans le monde réel, c'est-à-dire dans un monde où il y a d'autres gens. Donc dans l'idée de vivre sa danse, il y a une notion d'écoute de soi, d'écoute de son instinct, que je trouve très juste.
Merci, ça m'a ému. Merci beaucoup Adrien.
Merci.
Merci pour votre précieuse écoute. Partagez cet épisode à une personne qui vous est chère, qui peut-être traverse un burn-out ou est en quête de sens, ou peut-être simplement en période de transition. Le podcast Insensé est ici pour semer des graines, s'aligner et inspirer. Je vous invite donc à semer des graines avec moi. Si cet épisode vous a plu, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou simplement dites-le-nous sur Instagram, @insensé_. Sachez que derrière le podcast Insensé, il y a un magicien du son. Benjamin Roa, un chic type de Marseille qui a lancé Station Wouche. Sa promesse, un grand respect des oreilles des auditeurs et auditrices pour une qualité d'écoute confortable. Il travaille le rythme, les enchaînements, les respirations, les bruits de micro et j'en passe. Je le salue et le remercie. Sachez que tous les liens utiles et censés mentionnés dans l'épisode se retrouvent dans la description de celui-ci sur votre app d'écoute favorite, y compris les coordonnées de Benjamin du Station Wouche. À dans un mois. Comprenez bien le sens. Qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens. Non, ne me brossez pas dans le sens du poil. Faites appel à vos 5 sens, mettez-vous sans dessus-dessous, car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
Waouh ! Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh !
Réfléchissez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui suis-je?
Il est complètement fou ce mec!